C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes à Agadir au Maroc à l'occasion du deuxième sommet Climate Change, un immense forum qui rassemble plus de 5000 personnes de la société civile de 80 pays, toutes engagées dans la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes installés dans un salon de l'hôtel Atlantic Palace qui porte bien son nom puisque nous avons vu sur l'océan Atlantique avec nos invités que je vous présente tout de suite. Ronan Dantec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Climate Change. Salaheddine Mezwar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la COP22, alors qui s'est déroulée à Marrakech en novembre dernier, la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, mais vous êtes toujours président jusqu'à la prochaine
COP.
Voilà, qui aura lieu donc
au mois de novembre à Bonn.
Sous la direction, sous la présidence
de Fidji.
Des îles Fidji. Et troisième invité, Brahim Afidi, bonjour.
Bonjour et bienvenue à Agadir.
Oui, vous nous dites bienvenue parce que vous êtes président de la région Sousse-Massa, qui est la région du Maroc qui nous accueille. Merci pour votre accueil, accueil à la marocaine, je dois le préciser. Donc,
c'est un plaisir pour nous,
avec beaucoup de chaleur.
Avec beaucoup de chaleur, du thé à la menthe et beaucoup de sourires, c'est bien agréable. Alors Ronan Dantec, nous étions avec cette émission et ces mêmes micros au premier sommet Climate Change, c'était à Nantes l'année dernière. Cette année, j'ai envie de dire, on a changé d'ampleur.
Oui, 5000 personnes, c'était un pari, c'était pas si facile, c'était quand même pour moi, sénateur de Loire-Atlantique, plus confortable aussi d'organiser ce sommet à Nantes et en France. Le Maroc s'imposait à nous. Climate Change, c'est bien une association internationale, c'est bien l'idée de rassembler tous les acteurs non étatiques à l'échelle mondiale. Donc le continent africain était un passage obligé. Je crois qu'aujourd'hui le pari est réussi. Il y a l'affluence, il y avait une plénière totalement pleine, mais il y a aussi des ateliers très pointus avec
plus
des affluences très très fortes. 80 ateliers ils sont souvent pleins avec des échanges riches et beaucoup de présence africaine, beaucoup d'exemples africains. Donc je crois que le pari est effectivement est tout à fait rempli. C'est aussi par la mobilisation marocaine, je dirais un peu une double mobilisation. Il y a à la fois le fait que le Maroc a accueilli la COP22 et connaît aujourd'hui très bien les problématiques du climat. Dans la préparation de ce sommet, on a souvent discuté avec des gens qui sont parfaitement au courant de l'ensemble des enjeux d'une COP, qui n'est quand même pas quelque chose de si facile à comprendre. Donc il y a cette culture. Et puis il y a la région de Sousse-Massa qui s'est portée candidate pour organiser ce sommet et où il y a beaucoup d'actions. On parlera certainement tout à l'heure avec le président Afidi. Beaucoup d'actions déjà sur les questions climatiques, sur les questions de développement durable. Donc un terreau. Et on le voit à travers les acteurs non étatiques de la région très présents sur ce sommet, à travers les stands, à travers ce qu'ils présentent dans les ateliers.
Oui, mais je disais, parmi ces 5000 participants, il y a 80 pays représentés, donc il n'y a pas que le Maroc qui est là.
Il va nous falloir encore quelques jours pour tout analyser.
Alors, l'émission ne dure que 20 minutes.
Tout à l'heure, je remontais la rue où il y a beaucoup de stands et j'ai croisé des Touaregs, des Berbères, jusque-là c'était assez logique, mais aussi des Tibétains. Donc ça donne un peu une idée de la diversité. Il y a là tous les acteurs qui agissent et qui ont besoin de discuter avec les autres acteurs qui font et qui agissent. Dans tous les domaines liés au climat. Je crois que le pari du premier Climate Change ou du sommet climat et territoire qu'on avait organisé aussi à Lyon l'année précédente, on peut considérer que c'est notre troisième sommet, c'est finalement de donner un lieu à une communauté climat dont on sent bien qu'elle existe. Et je crois que cette communauté de climat prend de l'ampleur, prend de l'assurance, change aussi peut-être du coup sa façon de faire. C'est vrai que les premiers sommets, je repense par exemple à Lyon, on est très, très centré sur la COP. C'était la COP21 à Paris et on avait des messages à passer. À Nantes encore, on a passé des messages. Je crois qu'aujourd'hui, les acteurs sont aussi un petit peu en train de s'autonomiser par rapport à la COP. Alors on a toujours des messages et des enjeux sur la COP, mais on a tout autant des enjeux sur nos dynamiques spécifiques. On a des enjeux vers d'autres acteurs. Je pense par exemple au monde de la finance qui ne prend pas ses consignes et ses directives à la COP. Et donc voilà, ça prend de l'ampleur et ça correspond à un monde qui prend quand même la mesure de la gravité de la crise climatique, même si on sait très bien, on va peut-être en parler, qu'il y a aussi des résistances, voire des retours en arrière.
Alors ce sommet a lieu près d'un an après la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, qui a eu lieu à Marrakech, je le disais tout à l'heure, et à deux mois de la prochaine, qu'aura donc lieu, comme on l'a mentionné tout à l'heure, en novembre à Bonn. Alors pour Patricia Espinoza, qui est donc la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur le climat, qui est venue ici à Agadir, hein, c'est aussi une présence importante, ce deuxième sommet, Climate Change, est une étape essentielle dans le processus de lutte contre les changements climatiques.
As you can imagine, any multilateral framework that is negotiated.
Comme vous pouvez l'imaginer, n'importe quel cadre multilatéral qui est négocié doit d'une manière ou d'une autre réconcilier différentes réalités. Et dans le cas présent, ce sont les réalités de 190 pays. Donc au final, ce que nous pouvons avoir est un cadre très général. Et on comprend facilement pourquoi les citoyens pensent que toutes ces négociations, tous ces accords, sont très éloignés de la réalité. Et ce n'est pas facile, tout particulièrement lorsque l'on parle de changement climatique, qui implique un changement de nos modes de déplacement, de nos systèmes d'information, de nos systèmes de production, de notre agriculture. Cela concerne tellement d'aspects que partir du cadre général comme celui que nous avons dans l'accord de Paris pour aller vers des actions concrètes dans le monde réel, chez les communautés, est vraiment un pas de géant. Donc oui, c'est perçu comme cela par les populations, mais la participation des acteurs non étatiques, des entreprises, des ONG, montre qu'il y a de vraies connexions, et c'est absolument indispensable.
Salahedine Mezwar, comment réagissez-vous à ces propos de Patricia Espinoza en tant que président de la COP22 et ici à ce sommet Climate Change?
Bien, je partage naturellement le constat fait par Patricia sur l'ampleur de la problématique et la difficulté de la démarche. Et nous en sommes tous conscients. Mais à côté de la conscience, il y a l'action. Et c'est ce que nous avons toujours privilégié.
Oui, mais est-ce que vous avez conscience qu'il y a quand même le sentiment du côté de la population qu'il y a un écart entre cet engouement politique et puis les populations qui se disent « mais ça n'arrive pas jusqu'à nous, on ne voit pas les changements ».
Cet écart est naturel. Parce qu'on est en train de passer d'une phase d'expert à une phase de déploiement sur le terrain. Le langage de l'expert, je peux vous dire aujourd'hui, quand on m'a chargé de la présidence, de préparer la présidence marocaine, et quand j'ai commencé à entendre le jargon et les discussions, je peux vous assurer, hein, je peux vous l'avouer, et je l'avoue aussi à ceux qui nous écoutent, je comprenais peut-être le tiers de ce qui se racontait. Mais je me suis dit, de ces choses-là, il faut aller vers du concret. Et aller vers du concret, c'est créer les dynamiques vertueuses d'action. C'est pour ça qu'on a fait de la COP de Marrakech une COP de l'action. Les acteurs non étatiques. Il y a le processus de négociation et des États qui a son rythme. Mais ceux qui vont tirer tout ça, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et le citoyen, à travers ces initiatives-là, à travers les coalitions, à travers les ONG, à travers les différentes initiatives qui sont prises ici et là, qu'il forgera une conscience et une meilleure compréhension de la problématique que nous vivons aujourd'hui.
Alors justement, Brahim Hafidi, vous êtes un acteur non étatique qui agit ici, dans cette région de Sousse-Moussa, qui justement subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Expliquez-nous comment vous voyez leurs impacts déjà aujourd'hui sur votre région, par exemple sur l'agriculture dont vous dépendez beaucoup.
Absolument, nous sommes dans une région qui a subi les effets climatiques depuis des années. Donc on devait trouver des solutions, bien même avec la COP 21, avant la COP 22.
Vous n'avez pas attendu les COP pour agir.
On n'a pas attendu les COP pour agir parce que c'est une question de vie ou de mort. Si on n'avait pas résolu la problématique de la gestion des ressources hydriques, on serait un désert ici. On n'en aurait plus d'agriculture qui est le principal secteur économique. Donc là, on s'est mis vraiment à l'œuvre et pour garder ce secteur, garder les emplois. Et un travail magnifique a été fait pour la gestion de l'irrigation. Nous avions une zone qui s'appelle Greden, 10 000 hectares d'agrumes. Et vous savez, un hectare d'agrumes, ça fait employer beaucoup d'ouvriers, c'est une grande économie. Mais 10 000 hectares, on a commencé à voir les vergers se dessécher. Donc les arbres se vendaient pour le charbon de bois. Donc on a dû trouver une solution. Et là, on a innové une solution dans le cadre d'un partenariat public-privé pour sauvegarder ce périmètre de 10 000 hectares. Donc c'est des actions comme ça parce qu'on est obligé de trouver des solutions. Les changements climatiques qu'on a sentis également, c'est les inondations. Avant, on ne connaissait pas les inondations. Et nous devions agir. On a construit maintenant des barrages de protection, 4 barrages pour protéger la ville. On a protégé toutes les villes. Et nous avons tout un programme. Donc nous devions avoir des actions d'adaptation. Donc c'est pour ça qu'on a senti les changements climatiques bien avant. Aujourd'hui, on est très content que tout le monde en parle. Donc on s'inscrit parfaitement dans tout ce qui se dit aujourd'hui dans les changements climatiques. Alors ce qui est nouveau pour nous, c'est les questions d'atténuation. Donc pour cela,
diminuer votre propre impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Qu'on le diminue, mais le connaître. Donc aujourd'hui, on a fait des études, on sait chaque secteur combien il dégage, quel gaz à effet de serre il dégage, et on peut agir dessus, et on a la volonté de le faire.
R. Je disais que F. Il fait trop chaud ici. I.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Agadir au deuxième sommet Climate Change qui réunit plus de 5000 personnes venues de 80 pays, toutes mobilisées à travers leur association, leur entreprise, leur ville, leur région, dans la lutte contre le changement climatique. Ronan Dantec, en ouvrant ce sommet, vous avez dit que face à la colère que chacun d'entre nous peut ressentir quand on observe, et pire, quand on subit les inondations ou les cyclones dévastateurs, et on en a vu de nombreux ces dernières semaines, et bien face à cette colère, il faut miser sur la coopération. C'est ça ce sommet ?
Oui, c'est ça. Et c'est ça depuis le début. C'est-à-dire que nous mettons ensemble tous les acteurs. Des activistes qui peuvent être très critiques sur le monde économique libéral et des grandes entreprises multinationales, des peuples autochtones et des mégalopoles mondialisées. C'est vraiment la marque de fabrique et nous y tenons absolument. C'est-à-dire il y a d'autres moments non étatiques dans le monde. J'ai tendance à penser que c'est souvent des moments où on met surtout les gros, ceux qui ont des capacités d'action très fortes, les grandes villes, les grandes entreprises. Nous, on tient absolument à ce que toute la communauté climat soit traitée de la même manière, parce que finalement, il y a autant d'enjeux dans ce que font les communautés villageoises de femmes sur l'Argandier que dans des décisions d'investissement de transport public dans une grande ville. Ça, on y tient absolument. Il faut absolument créer cette culture collective. Après, effectivement, notre raison d'être, je l'ai souvent dit, c'est de lutter contre ce que j'appelle le climato-fatalisme. C'est-à-dire ce sentiment que c'est très très grave. Et je pense qu'on a tellement d'éléments pour nous dire que c'est tellement grave qu'aujourd'hui, on en est presque tous convaincus, mais que finalement, on n'y peut pas grand-chose, si ce n'est demain se protéger des migrations, de l'arrivée de l'autre, qui n'aura plus les moyens de vivre chez lui, et que ce risque de repli existe, et que la seule manière de lutter contre, c'est de montrer qu'il y a un scénario crédible par l'action concrète de tous ces acteurs pour stabiliser le climat. Et on a toutes les raisons d'être en colère aujourd'hui. Mais en fait, la colère, elle isole. Et qu'il faut finalement réussir encore à la dépasser pour retendre la main à l'acteur d'en face, même si finalement on le considère presque responsable de la crise climatique, et de recréer des coopérations. C'est un peu un acte de foi, mais c'est la seule culture possible du climat. Et en ce sens, c'est pour ça qu'on a appelé aussi notre sommet le Climate Change, c'est aussi une chance de recréer communauté à l'échelle mondiale en répondant tous ensemble à ce défi.
Saladin Mézoir, vous dites il faut répondre aux angoisses des jeunes et aux angoisses qui montent dans le monde.
Parce qu'il y a une véritable angoisse, c'est quand on voit les catastrophes et leur intensité aujourd'hui, il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Dans tout cela, il y a des victimes humaines, des pertes humaines, mais aussi des pertes matérielles considérables à chaque fois.
Qui se chiffrent en milliards de dollars.
Donc on est face à une urgence. Et l'urgence est porteuse également de choses positives. Et la chose positive, c'est que c'est la transformation d'un autre mode de vie. être très respectueux de l'environnement, intégrer de nouveaux comportements. Et j'ai parlé aussi de solidarité. Nous sommes en train de construire un monde beaucoup plus solidaire entre les riches et les pauvres, entre les ceux qui ont de la chance et ceux qui ont moins de chance.
Oui, vous voyez, donc, sur RFI, on a des auditeurs dans toute l'Afrique. Oui. Moi, je suis sahélien, je vous entends. Là, je dis, c'est très joli ce qu'il est en train de me dire. Oui. Mais moi, je vois rien changer pour moi dans ma vie au quotidien. Les inondations, les sécheresses, on les subit. Le désert avance. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur-là, qui est président de la COP, qui me sert à moi, petit auditeur de RFI?
Vous avez raison. Mais je dirais à ces messieurs qui m'entendent qu'il ne faut pas croire que ces changements vont se faire du jour au lendemain et aussi simplement. Nous sommes en train de parler de l'engagement de la communauté internationale. Donc c'est tous les pays qui doivent répondre. Donc nous savons que c'est un processus qui prendra du temps. Pour qu'on soit clair, ce n'est pas pour demain. Et donc il y a aussi là où nous voulons amener les décideurs politiques, c'est d'aller agir là où il y a le plus d'urgence. Oui, dans le Sahel, le lac Tchad, il y a des déplacements massifs de population à cause de la désertification et de l'avancée de la désertification. Donc, il faut des actions coup de poing sur un certain nombre de lieux où les gens sont en train de souffrir aujourd'hui. Mais comment le monde va évoluer avec l'atténuation ? Nous sommes en train de parler sur le long terme, mais par des actions au quotidien, et c'est cela vers lequel nous devons pousser.
Ronan Dantec.
Oui, c'est vrai que si on se contente du verbe, et souvent dans les négociations climatiques, on a produit beaucoup, beaucoup de verbes, on n'y arrivera pas. Ici, à Agadir, il n'y a pas eu juste de la production de verbes, même s'il faut des plénières qui donnent du sens. Il y a eu des ateliers sur les oasis durables, on a parlé migration, on a parlé financement de l'écharpe verte qui est une réponse aussi à l'avancée du Sahel. Donc toutes ces questions, nous les traitons. Nous les traitons. Et donc, des gens sont venus du Burkina, du Mali, beaucoup d'Africains sont là pour porter des solutions et faire en sorte que les solutions qu'ils ont, on les généralise. Donc, ce sont des sommets très opérationnels, extrêmement opérationnels. Et il faut aussi se méfier d'un discours. Le président Mézoir a dû l'entendre sur la COP22 aussi. Voilà, vous dépensez de l'argent, vous faites venir des gens, vous augmentez l'empreinte carbone avec tous ces voyages. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à l'action. Ça sert à l'action, ça donne du sens, une boussole, et ça crée de l'action concrète.
Brahim Afidi, quand vous avez accepté d'accueillir ce sommet Climate Change ici dans votre région, vous vous attendiez à autant de dynamisme? Comment vous réagissez en voyant ces 5000 personnes ici? Est-ce que ça vous rassure, par exemple, quand vous pensez à l'avenir de votre région?
On est très content, en fait, quand on a préparé ce deuxième sommet avec M. Dantec, on s'attendait à 3000 personnes au maximum. Aujourd'hui, il y a 5000, ça veut dire qu'il y a un intérêt, que le deuxième sommet est un succès, qu'il y a beaucoup d'acteurs non étatiques qui sont très intéressés, notamment en Afrique, puisque je pense que plus que la moitié vient de l'Afrique, notamment du Maroc. Donc il y a un intérêt. Je voudrais aussi revenir sur votre question pour le petit paysan du Sahel. Quand on a vu cette semaine certains ateliers, je pense qu'il y a également des financements pour certains projets, mais il n'y a pas de capacité pour postuler à ces projets. Donc je pense l'une des actions immédiates qu'on doit faire, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une coalition des élus africains. Donc si dans nos communes on a une coalition et on a des possibilités pour renforcer nos compétences, au moins pour préparer les projets et profiter des financements immédiats. Il y a un fonds d'adaptation où il y a de l'argent, mais il n'y a pas assez de projets. Il y a le fonds vert, l'argent est là, mais il n'y a pas assez de projets. Parce qu'aujourd'hui, pour préparer un projet, il faut toutes des compétences et des formulaires très compliqués. Donc, les gens ont besoin d'accompagnement. Et aussi, pour la mise en œuvre des projets, il faut faire des rapports. Donc, nous avons une urgence pour les compétences au niveau des différentes communes, des différents gouvernements locaux. Et ce sont ces compétences qui vont vraiment entrer dans la dynamique de tous ces verbes qu'on entend et de ces financements qui existent.
C'est pour ça aussi qu'il faut simplifier. Un paysan, lui, n'a pas de temps de remplir des documents. Absolument. Lui, il veut transformer, il est prêt à transformer et donc à rendre service à l'humanité. Il suffit de l'aider à le faire.
Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Nous parlerons justement, juste après le flash d'info, de toutes les initiatives qui ont eu lieu ici en faveur de la mobilisation des villes africaines pour s'adapter au changement climatique. À tout de suite.